Je vous invite à tourner dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, s'il vous plaît. Prions ensemble. Seigneur, on est devant toi ce matin avec des cœurs peut-être tourmentés, peut-être surexcités, peut-être sceptiques, peut-être déçus. Seigneur, on aimerait te demander par ton esprit qui agit dans chaque croyant, et même dans la vie de ceux qui ne croient pas encore pour le salut. On te prie, Seigneur, d'agir et de saisir chaque cœur ce matin, de nous captiver par ton esprit, que toute pensée soit captive pour entendre la parole de Dieu. Alors, captive nos cœurs ce matin et parle à notre cœur, à notre âme, Seigneur. Ta parole, Seigneur, vaut plus que 1000 objets d'or et d'argent. Si j'avais à choisir entre 1 million, 1 milliard de dollars et la parole de Dieu, sans compromis possible, je choisirais définitivement la parole de Dieu. Puisque c'est une semence incorruptible, tandis que ce milliard va être détruit. Alors, Seigneur, donne-nous des cœurs ouverts pour recevoir ta parole ce matin, s'il te plaît. Amen. Alors, Romains 1, 15, il y a un verset qui m'a toujours fasciné dans l'introduction de la lettre. Paul arrive à la fin, les trois derniers versets de son introduction, 15, 16 et 17, puis le verset 15 me fascine. Paul écrit aux chrétiens qui sont à Rome et en introduction, il parle de ceux qui sont saints par vocation. Il parle à des chrétiens, des gens qui, pour plusieurs, sont affermis dans la foi depuis plusieurs années. Il leur dit au verset 15, « Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais cette idée que Paul présente d'aller évangéliser des chrétiens de longue date peut sembler un peu étrange, où on se dit, ben voyons, Paul, c'est des chrétiens affermis. Tu l'as dit, c'est des gens qui sont saints par vocation, des gens qui ont une bonne réputation dans la chrétienté, même dans le monde, et tu veux les évangéliser. Et ce que j'aimerais vous proposer ce matin, en parlant avec Yannick il y a 2 semaines pour choisir le thème de l'enseignement, c'est de définir ensemble le mot « évangéliser », de prendre un angle en particulier ce matin. Paul avait ce désir d'annoncer, littéralement évangéliser. Paul dit, j'ai le désir de vous annoncer l'Évangile, mais le verbe, la traduction serait mieux de dire, je veux vous évangéliser, vous les chrétiens qui êtes à Rome. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais Yannick vous évangélise depuis près de 20 ans. Pour certains, c'est la première fois que vous entendez l'Évangile. Pour d'autres, ça fait peut-être 30, 40, 50 ans que vous entendez l'Évangile. Mais le mot « évangéliser » a un sens plus large que le simple fait d'annoncer ce qu'on appelle des fois le plan du salut, les 5 pas vers le ciel, ou ainsi de suite. Évangéliser signifie littéralement rendre témoignage de Christ et amener les personnes à Christ par notre témoignage. Le témoignage du chrétien doit être certainement verbal. Mais c'est un témoignage qui doit être aussi incarné comme Jésus. Alors ce matin, volontairement, je vais parler de ce deuxième aspect. Et jamais, je voudrais que quelqu'un le voie, Yannick, après, ou vienne me voir, même s'il a l'audace, puis de me dire, « Hugo, t'annonces un autre évangile ou t'as tordu le sens du mot évangéliser. J'insiste, d'évangéliser, c'est pas premièrement, mais c'est certainement quelque chose de vocal. Verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Au chapitre 10, Paul dit, « Comment les gens croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? » Il faut prêcher l'Évangile. Il faut que notre témoignage soit vocal ou verbal. Mais il faut que le témoignage soit aussi incarné. Il faut que le témoignage soit un exemple de vie. Et c'est cet angle que j'aimerais prendre avec vous ce matin. Si vous tournez avec moi au chapitre 2 de l'Épître, verset 19, chapitre 2, verset 19, Paul utilise dans cette lettre le style de la diatribe, c'est-à-dire qu'il y a un interlocuteur comme fictif à qui Paul parle pour une bonne partie de la lettre. Verset 19, « Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles parlant aux Juifs de l'époque, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. On pourrait dire, toi donc qui évangélises les autres, tu ne t'évangélises pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui fais une gloire, qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. » Wow! Lorsque je ne marche pas dans les voies de Dieu, un frère pourrait venir me voir et me dire, « Hugo, tu blasphèmes le nom de Dieu. » Wow, boy! Qu'est-ce que tu fais là? Tu es un chrétien, j'aime Jésus, je parle de Jésus. Oui, mais c'est parce que tes bottines, comme on dit, ne suivent pas tes babines. Tu prétends être chrétien, tu prétends que Jésus a transformé ta vie, qu'il t'a donné une nouvelle nature, une vie nouvelle, puis dans ta vie, il y a plein d'endroits où ça accroche. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de toi, Hugo. Je tremble à l'idée que quelqu'un me dise ça. Honnêtement, là, mais la personne aurait raison. Si ma vie n'est pas conforme à mon témoignage verbal, je suis un blasphémateur. Jean a dit que l'amour du monde, c'est-à-dire, il dit, vous qui aimez le monde, vous commettez un adultère. Quand, comme chrétien, je suis tellement captivé par les biens matériels, par les choses du monde, par mes ambitions professionnelles ou toutes sortes d'autres choses, je suis un adultère spirituel. Quand quelque chose prend la place de Dieu dans ma vie, que ce n'est pas Dieu qui est en haut du sapin, l'étoile, là, je suis un idolâtre. Alors, ce que Paul dit ici aux Juifs, moi, je veux prendre ça pour moi. Je veux dire, moi, je me targue d'être un enfant de Dieu. Moi, je dis, je suis un conducteur des aveugles. Je ne le dis pas comme en me promenant à sa rue, mais vous comprenez. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Donc, moi, je suis fier de dire, oui, j'ai une sagesse que le reste du monde n'a pas, c'est-à-dire ceux qui sont sans Christ. J'ai la parole de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu qui illumine mon cœur, qui me guide dans les Écritures. Alors, moi, je m'identifie au peuple juif dans une certaine mesure. Et je voudrais surtout pas qu'un frère vienne me voir et qu'il me dise, « Go, le nom de Dieu est blasphémé à cause de toi. » Parce que tu dis des choses avec ta bouche, mais ta vie ne suit pas ce que tu dis. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble brièvement cet aspect-là dans la deuxième partie. Dans la première partie, j'aimerais survoler avec vous. Peut-être que vous n'arriverez pas à suivre. Je ne vous invite pas non plus à suivre, parce que je vais passer plusieurs passages dans l'Épître aux Romains, puis je dois aller avoir un bon rythme quand même. Alors, si vous êtes capable, tant mieux. C'est quand même linéaire. Romains 3, 23 et 24. Quels sont les bénéfices de l'Évangile pour celui et celle qui a fait reddition devant Christ, qui s'est rendu complètement à Jésus, le roi des rois? Quels sont les bénéfices spirituels dans sa vie? Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Devant Dieu, je suis agréable. » Avant, j'étais privé de la gloire de Dieu. Il y avait un mur d'inimitié entre moi et Dieu. Maintenant, je suis agréable devant Dieu. Dieu me regarde, puis il aime ce qu'il regarde à travers l'œuvre de Christ. Je suis juste, justifié, agréable à Dieu. Romains 4, 7 et 8. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Dieu ne m'impute pas mes fautes. Et même aujourd'hui, même dans l'avenir, je sais que Jésus s'est interposé et Jésus a tout pris à ma place sur la croix. Je suis heureux. Heureux de ce que ma relation avec Dieu ne dépend pas de ma performance morale. Jésus s'est chargé de toutes mes fautes. Romains 5, 1 et 5. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Verset 5. « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Je suis en paix avec Dieu. Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que tu as été réconcilié avec Dieu par la croix du calvaire? Moi, je suis en paix. Quand je m'approche de Dieu dans une attitude de prière, je ne viens pas dans une crainte, je ne viens pas rencontrer un juge, un arbitre, un législateur, je viens rencontrer papa. Et je sais que papa n'est pas toujours content de mes choix, puis de mes actions, puis de mes pensées, puis de ma négligence, mais je sais quand même que papa est toujours prêt à m'accueillir, soit dans ses bras, sur ses genoux. Je suis en paix avec Dieu. Et plus que ça, au verset 5, je suis rassuré par l'amour de Dieu. Dieu déverse son amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. J'ai un sentiment de plénitude et de sécurité. Je sais dans mon cœur, je suis rassuré, Dieu m'aime. Dieu n'a pas épargné son propre Fils pour moi. Dieu m'aime. Hey, écoute, si Dieu m'aime, so what pour le reste? So what pour le reste? Romains 6, 4 à 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Quelle affirmation solennelle et puissante! Le christianisme n'est pas juste un statut légal devant Dieu. Ce que Jésus a fait, ce n'est pas simplement de rendre mon dossier propre et acceptable devant Dieu. L'œuvre de Christ, c'est de me donner littéralement une vie nouvelle, un cœur nouveau qui affectionne les choses de Dieu. Et chaque fois qu'un péché semble vouloir me dominer, que je suis découragé parce que le même péché récurrent vient marceler, je prends Romains 6, versets 4 à 6, et je me parle. Je me parle et je dis, j'ai été crucifié avec Christ. Le Hugo a été crucifié avec Christ. Le zouf, le guignol, le plouc, qui disent les Français, on se prépare pour l'an prochain, le plouc que j'étais avant a été crucifié avec Christ. J'ai été enseveli par le baptême en sa mort. Le vieux Hugo qui carburait au péché a été enseveli par la mort de Jésus dans mon baptême, dans ma nouvelle naissance avec lui. Je suis devenu une même plante. Hey, ça, c'est fantastique. J'ai été greffé à Jésus. Je forme une même pousse, pas un pouce, une même pousse, une même plante avec Jésus. Ce qui coule en Jésus coule en moi maintenant, l'Esprit de Dieu coule dans mon cœur, dans mon âme. Comme Paul dit au verset 6, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est une chose de dire, OK, je suis sauvé, je suis pardonné, mon statut légal est propre, est acceptable et agréable devant Dieu, j'ai la paix avec Dieu, je me sais aimé de Dieu. Mais c'est une autre chose de vivre une vie chrétienne triomphante et enlevante. Et ça, c'est à la portée de toi, mon frère, ma sœur, de vivre un christianisme vrai, excitant, enlevant pour la gloire de Dieu. Romains 8, verset 1, vous l'attendiez celui-là. Il n'y a donc maintenant quoi? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Peut-être que ce matin, tu disais, ils ont l'air d'aimer ça, ce verset-là, c'est parce que avant de connaître Christ, il y avait un trésor de colère qui était accumulé pour moi. Mon dossier était immense. Mon dossier criminel devant Dieu était énorme. Là, tu dis, aïe, tu étais comme Adolf Hitler numéro 2, toi? Non, j'étais un Québécois normal, mais j'étais un grand pécheur devant l'Éternel, comme tous les Québécois. Mon dossier était énorme devant Dieu. Et quand j'ai commencé à sentir cette misère, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, as-tu une solution quelque part? Parce que je suis vraiment terrassé par le poids de ma culpabilité. Et là, Dieu m'a montré la croix. La croix de Jésus, j'ai cru en Christ. Le fardeau est tombé et maintenant, il n'y a plus de condamnation pour moi. Il n'y a plus de condamnation et c'est pour toi aussi aujourd'hui. Si tu le veux, verset 12, Romains 8, 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. C'est un peu comme un locataire. Avant, ton propriétaire, c'était la chair. C'était le diable, là, mais déguisé. L'intendant, le manager de ta vie, c'était ta chair. Le grand boss, le propriétaire, c'était Satan. Et tu étais redevable. À tous les mois, il venait cogner à ta porte. Tu sais, comme les mafieux qui vont voir les commerces dans un quartier puis ils disent, on veut 15 % des profits, 20 % La chair était toujours là en train de frapper à la porte de ton cœur puis te dire, tu es redevable envers moi. Et là, tu étais triste parce que tu faisais des choses qui altéraient, qui blessaient ta conscience. Peut-être un peu tordue, mal aiguisée, mais quand même présente. Mais maintenant que tu es en Christ, c'est Jésus qui frappe à ton cœur. Quand ça frappe, là, sois pas nerveux. C'est Jésus qui dit, hey, on a-tu besoin de prendre un souper ensemble? On a-tu besoin de rappeler les hauts faits que j'ai accomplis pour toi? C'est Jésus maintenant qui frappe à la porte de mon cœur. Je ne suis plus redevable à la chair. C'est Jésus mon propriétaire. Versets 37 à 39, des passages absolument merveilleux par lesquels Paul finit la première grande partie de sa lettre. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Il n'y a plus rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Même pas moi. Même pas moi, quand je suis assez imbécile pour m'éloigner du Seigneur. Le Seigneur me dit, tu es attaché à moi maintenant. J'ai payé cher, j'ai donné mon propre fils pour toi. Je ne te laisserai pas me quitter. Je t'ai racheté à un grand prix. Jean 10, 28 et suivant. Maintenant, allez avec moi au chapitre 12, s'il vous plaît. Alors, peut-être pour ceux qui aiment moins mon peut-être vocabulaire des fois un peu plus franc, là, j'habite à Rivière-du-Loup maintenant. Ma belle-sœur me dit que depuis que j'étais à Rivière-du-Loup, j'étais plus habitant. Alors, je suis intégré culturellement. Alors, je ne sais pas, là, je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas, excusez-moi si ça vous choque. Viendrez nous voir à Rivière-du-Loup. On vous fera visiter les environs. Des gens fantastiques en passant. Là. Romains 12, 1 et 2. Maintenant, regardons notre réponse raisonnable, spirituelle et logique. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs. C'est ça? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu es né de nouveau, tu as déjà donné ton cœur à Jésus. C'est vrai, on dit ça aux enfants, donne ton cœur à Jésus. Dans les bons vieux cantiques, je t'ai donné mon cœur, Jésus. Mais là, ce que le Seigneur veut, c'est qu'au quotidien, tu lui offres ton cœur, parce que ce véhicule-là est encore porté vers d'autres choses. Il veut juste que ton corps suive ton cœur. Ce qui sort de ta bouche, c'est l'abondance qui vient de ton cœur. Tu parles du Seigneur, tu parles de Jésus. Maintenant, le Seigneur te dit, « Je voudrais que la partie matérielle de ton être suive ton témoignage verbal. J'aimerais que ce ne soit pas juste des paroles, des pensées, un amour platonique que tu as pour le monde autour de nous, mais un amour tangible. » Ce qui est fantastique, c'est l'exemple de Jésus. Dans les vieilles traductions de la Bible, Jean chapitre 1, on dit qu'au commencement était le Verbe. Ceux qui ont des vieilles Bibles catholiques, on parle du Verbe. Au commencement était la parole, le Logos, le Verbe. Et au verset 14 de Jean 1, ceux qui font « et la parole a été faite chair ». Est-ce qu'on peut dire à Jésus, « Jésus, t'as manqué dans ton témoignage verbal pour le royaume ». Est-ce qu'on pourrait reprocher ça à Jésus? « Jésus, t'as manqué dans ton témoignage verbal ». On ne peut pas blâmer Jésus. Jésus a dit aux Juifs, « Qui me convaincra de péché? » À quel moment j'ai eu un manquement? La réponse était personne. Personne ne peut accuser Jésus. Mais ce Verbe s'est incarné. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est un homme en chair et en os qui a donné sa vie pour toi et moi. Et si ce n'était pas de cette incarnation, la rédemption ne serait pas ce qu'elle est. Alors, dans ta vie, dans ma vie, je veux m'assurer pour ma part, et je t'encourage à faire de même, que tu incarnes l'Évangile. Que tu incarnes l'Évangile, que tu ne te laisses pas transformer ou influencer par le monde autour de toi, mais que tu sois renouvelé par les Écritures et que tu suives l'exemple de Jésus dans ton foyer, dans ton Église, dans ta société. Le défi que j'aimerais vous proposer ce matin, c'est d'évangéliser votre famille. Là, tout de suite, il y en a qui disent « Ah, je le fais tout le temps, ils ne veulent rien savoir. » Non, tu n'as pas compris. Je te parle d'évangéliser ta femme qui est chrétienne, d'évangéliser ton mari qui est chrétien, d'évangéliser tes enfants qui sont peut-être chrétiens, qui sont peut-être en voie de le devenir. Je veux t'encourager ce matin à évangéliser ta famille immédiate et élargie. Je veux t'encourager à évangéliser les frères et sœurs dans l'Église. Ben voyons, Hugo, on ne peut pas évangéliser des chrétiens. Ben Paul le fait, en tout cas. Alors, je veux t'encourager, l'Église de l'Espoir, ce matin, choisit de dire, on va s'évangéliser les uns les autres. Ça ne veut pas dire, venez voir qu'un frère, Bible en main, la grosse Bible, la nouvelle, ça, c'est MacArthur, elle pèse 25 livres. Viens, mon frère, j'aimerais te parler. Tu sais, la Bible dit de ne pas faire ça, puis tu l'as fait. Je ne suis pas tout à fait que c'est sûr que c'est ça, évangéliser. Ça peut être ça à l'occasion, mais ça ne devrait pas être la norme. D'évangéliser ton frère, ta sœur dans l'Église, c'est d'incarner l'Évangile dans ta relation avec lui et elle. D'évangéliser ta société, le monde autour de toi. Eux autres, on peut dire, OK, eux autres, ils n'ont pas Jésus. C'est vrai, la plupart n'ont pas Jésus. Comment puis-je évangéliser mon épouse? Éphésiens 5, s'il vous plaît. Éphésiens 5. Chaque église de notre association désire grandir, je l'espère, en nombre. On espère voir la salle se remplir, agrandir. On souhaite tous ça. Je pense qu'on veut voir les gens venir au Seigneur. Mais si on insiste premièrement sur des approches de marketing, puis que la puissance de l'Évangile n'est pas manifestée dans nos relations, dans nos familles, dans nos relations mutuelles, dans notre rapport avec le monde sans Christ, bien, si ça marche, notre affaire, que ça se remplit sans que l'Évangile soit fort dans nos vies, bien, je ne sais pas exactement avec quoi on va la remplir, l'Église, honnêtement. Là. Je ne sais pas. Tu sais, Jésus a dit aux Juifs, vous parcourez la terre pour faire des prosélytes, vous en faites des fils de la GN. Alors, on voudrait pas remplir l'Église de l'espoir avec des gens, dans le fond, qui comprennent pas du tout l'Évangile. On a juste une bonne stratégie de marketing. On a réussi à leur faire croire que ça serait bien de venir ici chaque dimanche matin, de chanter des chants, d'entendre un bon message. Il faut que l'Évangile soit intégré dans nos vies familiales, dans notre vie d'Église, puis dans notre rapport avec le monde. Éphésiens 5, 25 à 28. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est fait servir par elle. » C'est ça? C'est ça que ça dit dans votre vie? « Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. J'aimerais parler aux hommes dans un premier temps, ce matin, en touchant ce point-là. J'ai choisi de ce passage-là parce que ça s'adresse premièrement aux hommes. On vit dans une société qui cherche à féminiser les hommes, qui cherche à dire les hommes, assumez pas votre rôle de leader. Les femmes veulent s'émanciper. Les femmes veulent prendre la place dans la société. Alors les hommes, comme, gardez votre trou, là. Faites pas trop, dérangez pas. Puis les femmes s'en chargent. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce matin, si vous êtes chrétien, que c'est pas la bonne idée. Ça, c'est de se conformer au siècle présent. Mais je veux être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est comme homme dans mon foyer, que tu as des enfants ou non, si tu as une épouse, comme homme, tu veux incarner l'Évangile. Tu veux être le premier qui incarne l'Évangile. Tu veux celui qui initie l'évangélisation familiale en te livrant pour ton épouse. C'est pas d'être un serviteur, un esclave servile. Oui, c'est d'être un serviteur, mais d'être un leader serviteur. Tu sais que pour le bien de ton foyer, c'est cette chose-là qui est bonne. Fais-le par amour dans une attitude de grâce, de fermeté, de foi, de confiance en Dieu, d'amour. Fais-le. N'imitons pas Adam. Imitons Christ. D'un côté, il y a 6000 ans, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce décompte, mais il y a environ 6000 ans ou plus, on a cet homme, Adam, qui... On a l'impression, en tout cas, est comme absent même de la scène, probablement passif. Et son épouse Ève est tentée par Adam. Puis au lieu d'intervenir, puis de dire, hey, menteur, va-t'en. Puis si c'est nécessaire, je vais te casser en deux. Non, là, je vais te couper les pattes. Après ça, je vais te casser en deux. Il y avait des pattes dans ce temps-là. Il est là, puis comme passif, on imagine. Il est juste là, puis c'est lui qui avait eu le commandement en premier, puis il regarde ça aller. Après ça, ça fait du temps, veux-tu? Bon, envoie donc. Quel irresponsable! Quel homme désengagé! Et d'un côté, j'ai Jésus qui voit l'humanité, son Église en devenir, puis qui voit la main de Dieu, la verge de Dieu qui s'en vient pour frapper l'humanité. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il s'interpose. Il s'interpose entre moi, qui mérite définitivement le châtiment de Dieu, et qui prend le châtiment à ma place. Quel exemple d'époux qui se livre pour son épouse. Est-ce que c'est un lâche, Jésus? Est-ce qu'il y a eu du courage, Jésus? Je pense que oui. Mon frère, si tu as une épouse, imite Jésus. Et j'ai un miroir devant moi donnant ce que je te dis. Je me parle. Imite Jésus. Livre-toi pour le bien-être de ton épouse et de ton foyer. Et ce que je dis, ça s'applique aux femmes. OK? C'est bon pour les... Je ne passerai pas le féminin, masculin, tout le temps, je n'ai pas assez de temps. Livre-toi pour ton épouse. Protège ta femme, prends soin d'elle, viens à son bien, vois son bien-être. Épouse, fais la même chose. Tu veux t'assurer du bien-être physique de ton époux, ton épouse. Tu veux t'assurer que physiquement, elle est en santé. Bon, la maladie, on n'a pas de contrôle sur ça, mais tu veux contribuer à son bien-être physique. Et ça, c'est pas juste de donner de la nourriture. C'est de t'assurer qu'elle ne se surmène pas, qu'il ne se surmène pas parce que tu y mets trop de pression financière. Ça va jusque dans le domaine sexuel, 1 Corinthiens 7. On est tellement surexposé à la sexualité aujourd'hui, un époux, une épouse qui boude sa femme, qui est un bloc de glace, va rendre compte sévèrement au Seigneur. Prends soin de ton épouse physiquement, à tous les niveaux, dans tous ses besoins physiques. Livre-toi pour lui ou pour elle, à tous les niveaux, physiquement, psychologiquement. Reconnais ses qualités, ses talents, ses dons. Dis-lui, « Hey, c'est fantastique, toi. T'as tellement de capacités dans ce niveau-là, à ce niveau-là, puis t'es bourré de talents. Peut-être que ta femme est complexée physiquement, elle est belle à tes yeux. Dis-lui, t'es belle, mon amour. T'es beau, mon amour. » On vieillit, on le sait tout, là. Si on se compare avec des jeunes de 20 ans, même moi, je vais m'en aller, j'arrive plus à fournir, tu sais. Mes enfants me disent que je fais de la bédaine. Je trouve que je ne suis pas si pire que ça, mais en tout cas, ils me disent que je fais de la bédaine. Je suis comme les gars dans les annonces, mais le six-pack, il n'est pas en muscle. Tu sais, il est plutôt comme ça. Fait que, valorise ton époux, ton épouse. Valorise-la au lieu de lui taper sa tête tout le temps avec ses défauts et ses faiblesses. Aide-la à avoir une bonne santé psychologique. Spirituellement, fais-lui un sermon chaque matin, la Bible ouverte au déjeuner, c'est ça? Non, prie pour lui, prie pour elle. Modélise Christ dans ta vie. Sois un exemple de qui est Jésus dans ta vie. Tu vas l'évangéliser, je te garantis. Partage les Écritures, comment Dieu t'a parlé, pas comment Dieu voudrait te parler. Comment Dieu t'a parlé. Hey, j'ai lu ça dans la Bible, c'était tellement édifiant. Puis ça n'a pas l'air d'un genre d'exhortation détournée. Peut-être que ça serait bon pour toi aussi. Non, non. Partage ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Excite-la à rencontrer Dieu. Excite-le à rencontrer Dieu par les Écritures. Soutiens ton époux, ton épouse dans ses combats spirituels. Tu le connais mieux que tout le monde, à part Dieu. Soutiens-le, soutiens-la. Et protège-le, protège-la. Tu veux aussi évangéliser tes enfants. Comment tu vas faire pour évangéliser tes enfants? Oui, il y a un témoignage verbal. Peut-être qu'ils ne sont pas encore sauvés. Mais comme on dit tout à l'heure, si tes bottines ne suivent pas tes babines, ça va produire probablement l'effet contraire. Oui, comme chrétien, on a des standards élevés, on n'est pas appelé à les baisser. Les Écritures sont exigeantes, mais c'est dans la grâce de Dieu. Quelqu'un a dit à un moment donné, une loi sans amour, ça produit la rébellion. Oui, on a des standards élevés, mais ça baigne dans l'amour. Il y a beaucoup d'amour qui entoure ces standards élevés. Comment tu peux évangéliser tes enfants sans étant un chrétien, un Jésus incarné en toi? Un amoureux, un passionné de Dieu. Si tout ce qu'il voit de toi est chrétien, c'est de se lever le dimanche matin de bonne heure puis aller à l'église, c'est loin d'être suffisant. Est-ce que tes enfants voient dans ta vie un amour profond pour Jésus? Est-ce que tes enfants voient un amour profond pour Jésus? Sois un amoureux de la grâce de Dieu et communique la grâce de Dieu. Une grâce qui sanctifie certainement, mais une grâce qui aime, qui encourage. Josué a dit un jour à la fin de sa lettre, il dit, « Vous autres, faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Des fois, comme chrétien, on a l'impression qu'on doit choisir entre la famille et l'Église. Ce n'est pas vrai. C'est la famille à travers l'Église. Emmène tes enfants dans le ministère. Implique-toi dans des choses où tes enfants peuvent s'impliquer à l'occasion aussi. Ne fais pas des choses qui sont complètement à côté de ce qui est à leur portée. C'est toi et ta maison, tu vas servir Dieu. Tu n'as pas à choisir entre l'Église et la famille. C'est la famille à travers l'Église. On veut évangéliser notre Église. On veut évangéliser notre Église. Et là, peut-être, j'aimerais vous donner un deuxième devoir, si tu permets, Yannick. Avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Vous pouvez lire Romains 12, 13, 14, 15, 16 et 17 cet après-midi. Ça se lit bien. Je l'ai lu ce matin, là, en 45 minutes. Alors, premièrement, vous cherchez où est Rivière-du-Loup, si vous ne l'avez pas trouvé encore. Ça prend 5 minutes. Google Maps, 2 minutes. Une minute, les plus vite. Après ça, tu prends 45 minutes après ton dodo dominical. Puis, tu vas lire Romains 12 à 17, à 16, je m'excuse, parce que je manque de temps, puis tu vas être grandement enrichi. Paul a résumé son ministère comme suit Colossiens 1, 28. C'est lui que nous annonçons en parlant de Jésus. C'est lui que nous annonçons exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et moi, j'ai pris ce verset-là, puis ça résume mon intention ministérielle. Dans mon église, je veux travailler pour annoncer Jésus constamment avec ma bouche, avec mon modèle, 1 Pierre 5 comme ancien. Je veux être le modèle du troupeau. Je veux être un exemple de c'est quoi être un chrétien qui vit passionnément pour Jésus. Et ce que je veux, c'est que les gens à Rivière-du-Loup soient devenus, deviennent parfaits en Christ. C'est ça mon ministère. Ça se résume à ça. Je veux évangéliser l'Église La Rivière semaine après semaine. J'ai dit à ceux qui étaient tannés, je m'excuse, je ne changerai pas. Je vais vous évangéliser semaine après semaine. Évidemment, pas le plan du salut, mais comme Paul fait dans toutes ses lettres. Je veux que Christ soit formé dans le cœur des croyants. Paul dit aux Galates, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Paul il dit, « Je souffre comme... » Jonathan, tu vas vivre ça bientôt, tu vas voir, ben pas toi, mais ta femme, puis toi, tu ne pourras rien faire à côté d'elle, tu vas souffrir beaucoup moralement, tu vois ta femme souffrir, tu ne peux rien faire. Mais les douleurs que Nathalie va vivre prochainement par la grâce de Dieu... C'est ce que Paul disait, je vis ces douleurs de l'enfantement. C'est comme un fardeau dans mon âme, quelque chose qui me presse le cœur parce que je veux que Christ soit formé en vous. Yannick, je pense que c'est ton désir pour l'Église de l'Espoir. Alex, c'est ton désir. Robert, c'est votre désir. Hein? Les pasteurs, je m'excuse, j'en oublie. Vous voulez que Christ soit formé dans votre propre vie, dans la vie des frères et sœurs en Christ. Paul dit, Romains 16, 25, à la fin de sa lettre, il finit encore sur ce terme, « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant tous les siècles. » Et là, il rend gloire à Dieu. Il parle à des chrétiens, puis il dit, « Dieu peut vous affermir en Jésus-Christ selon mon évangile et par la prédication de Christ. » En prêchant Christ, en modélisant Christ dans nos vies, on affermit notre Église dans l'Évangile. Frères et sœurs, évangélisez-vous à chaque semaine. Jésus a dit dans Jean 13, 35, Jonathan en a parlé tantôt, « C'est à ceci, à l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres, que tous vont connaître que vous êtes mes disciples. » D'évangéliser mon Église, c'est de m'offrir libéralement pour les frères et sœurs. De laver les pieds de ceux qui ont besoin d'avoir les pieds lavés comme un symbole, mais de me dire, regarde, il n'y a pas de saut ministère dans l'Église. Moi, je vais servir les frères et sœurs et je veux que Christ soit formé dans le cœur de chacun. Donc, je vais modéliser, je vais incarner l'Évangile dans ma vie. Finalement, tu veux évangéliser ta société. Là, c'est plus simple. Évidemment, tu vas y aller de façon vocale ou verbale. Mais dans Romains 12, nous dit... que je dois toujours surmonter le mal par le mal, c'est ça? Par le bien. Ne vous laissez pas vaincre par le mal. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. T'es-tu en conflit avec un voisin? Ça dure. Il met son tempo, tu trouves ça tellement laid. Tu y as dit, puis il met pareil. Là, t'es fâché. Repens-toi ce matin. Fais le bien. Lui, il ne t'écoute pas. Il fait tomber sa neige de son tempo sur ton terrain. Toi, tu vas pelleter puis tu vas te rappeler ce passage-là de Romains 12. Surmonter le mal par le bien. Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Tu vas incarner l'Évangile. Tu vas aller y offrir des petits beignes à Noël avec une carte. Joyeux Noël, mon voisin. On veut dire qu'on t'apprécie. Oui, c'est vrai? C'est vrai, non? Jésus a dit, quand tu fais ça, ça va être des charbons ardents que tu vas accumuler sur sa tête. Non, mais c'est positif. C'est que le bien que tu vas lui faire va le confondre. Le bien que tu vas lui faire va être comme un jugement. Il va dire, aïe, aïe, ce gars-là, je l'écœure. Je fais tomber toute ma neige le matin. Je tape dans toi pour que ça tombe sur son terrain. Puis il m'apporte des beignes à Noël avec sa famille. Ils sont venus me chanter un petit cœur chrétien. Là, il va être confus. Ça se peut qu'il vienne frapper au jour de l'an et qu'il dise, il faut que tu me parles de ton affaire. Là. Tu m'as déculotté cette semaine. Tu m'as déculotté. Romains 13, tu ne payes pas tes impôts, repens-toi. Parce que quand tu ne payes pas tes impôts, tu déshonores les autorités civiles. Puis Dieu dit, malheur à toi, t'attires la malédiction sur toi. Tu ne payes pas tes taxes, paye tes taxes, honore les autorités. Tant qu'il ne demande pas de désobéir de façon évidente au Seigneur, sois soumis à Mme Marois, à M. Harper. C'est vrai? Pourquoi vous riez? Yannick, pourquoi il rit? C'est drôle, mais on devrait être gêné. Je veux dire, il faut être soumis à Mme Marois. C'est ça que le Seigneur nous dit. Même si tu n'as pas voté pour elle, on vit dans une démocratie, tu as le droit de te prononcer, on doit être soumis aux autorités. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Je termine avec ça. Colossiens 4, le sel, ce sont nos paroles. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Je répète, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Oui, il y a le témoignage verbal. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils vous entendent votre témoignage de conversion. C'est ça que ça dit? Qu'ils voient vos bonnes œuvres, l'Évangile pratiqué dans ta vie et qu'il glorifie votre Père qui deviendra le leur, comme en temps personnel, qui est dans les cieux. Témoignage verbal et incarné. Prions ensemble. Seigneur, moi je te prie pour un réveil depuis plusieurs années au Québec. Et j'ai toujours eu la prétention que je peux être un agent de réveil. Je prie pour que ta main bouge dans ce sens-là, que ton esprit soit déversé de façon massive sur cette province. Mais je crois qu'en attendant que tu le fasses, je peux agir comme un agent de réveil. Dans ma famille, avec mes enfants, avec mon épouse, dans mon église à Rivière-du-Loup et dans ma société, Seigneur. Alors, j'aimerais te prier ce matin, Seigneur, que l'Église de l'Espoir soit pour chacun des membres un agent de réveil en vivant et en incarnant l'Évangile dans sa famille, dans l'Église et dans la société, Seigneur. Juste quelques secondes, fais une prière au Seigneur. Exprime quelque chose à Jésus. Si tu n'as jamais donné ta vie, ton cœur à Christ, fais-le ce matin. Ce qui t'attend pour l'instant, c'est la verge de la colère de Dieu. Et Christ s'est interposé à la croix entre toi et cette verge. Et tout ce que Jésus te demande de faire maintenant, c'est de te repentir de cette vie sans Christ au centre. Et de croire dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, qu'il a pris la colère de Dieu à ta place. Prends cette décision ce matin. Seigneur, sois béni. Amen.